Vous écoutez RTL. RTL Matin, Yves Calvi.
Nous serons avec Laurent Gérard dans quelques minutes, mais à 8h39, c'est la revue de presse avec Amandine Bégaud. Et Amandine, on va d'abord revenir aujourd'hui sur la journée des solitudes.
Oui, c'est l'intitulé « La première du genre », c'est ce que j'ai découvert ce matin en lisant Midi Libre. C'est donc aujourd'hui la première. Le phénomène, lui, est pourtant visiblement bien installé. La grande solitude toucherait en effet 12% des Français. Ça paraît dingue à l'heure du tout connecté. Première victime, les personnes âgées, bien sûr, mais aussi, et cela paraît encore plus étonnant, les jeunes. Selon un récent sondage publié par le magazine Pleine Vie, près de 3/4 des 18-24 ans affirment parfois se sentir seuls. 14% disent l'être souvent. À titre de comparaison, les plus de 65 ans, eux, sont 68% à déclarer ne jamais se sentir seuls. La solitude, un fléau qui ne concerne pas que la France, loin de là. Au Royaume-Uni, Theresa May vient même de nommer une ministre de la solitude. C'est très sérieux. Là-bas, le phénomène toucherait 9 millions de personnes, une personne sur 7. Selon une récente enquête réalisée par le gouvernement britannique, 200 000 personnes âgées n'auraient carrément pas eu de conversation avec un ami ou un parent depuis plus d'un mois. Ce mardi, c'est aussi le début du forum économique de Davos. Rendez-vous sous très haute sécurité, hein, puisque c'est tout le gratin de l'économie mondiale qui se retrouve dans cette petite station suisse. 4377 militaires ont ainsi été mobilisés, précise ce matin le quotidien suisse Le Temps, qui note qu'hier soir, la principale préoccupation des organisateurs, ce n'était pas l'économie ni les risques géopolitiques, non, c'était la météo, oui, puisqu'il est tombé là-bas plus d'1,60 m de neige en 6 jours, de quoi perturber le balai des hélicoptères et des limousines. Davos, c'est quand même, il faut le rappeler, 3000 participants, 3000 dont 70 chefs d'État ou de gouvernement, c'est ce que rappelle ce matin le Figaro, qui nous emmène dans les coulisses de ce rendez-vous annuel du Gotha du capitalisme, un rendez-vous créé en 1971 par un Allemand, Klaus Schwab, c'est son nom, professeur de management qui avait 33 ans à l'époque. Et il a choisi, raconte le Figaro, Davos pour deux raisons. D'abord, parce que cette station était réputée pour son ensoleillement, bon, c'est pas gagné cette année, mais à la belle époque, on venait y soigner la tuberculose. C'est d'ailleurs la seule station suisse, raconte le Figaro, à ne pas avoir de chalet, mais des immeubles à terrasse conçus pour les sanatoriums. Schwab a aussi choisi Davos pour son accès. Pas simple. Je voulais, explique-t-il, un endroit suffisamment reculé pour que les congressistes ne s'en échappent pas entre les sessions. Paris réussi. Au départ, il n'était que 200, des universitaires essentiellement. Ils sont désormais 3000 à débourser chaque année 32 000 euros pour participer à l'événement, 32 000 euros hors frais d'hôtel. La star cette année, ce sera Donald Trump, le président américain qui a confirmé finalement sa présence hier. Ironie du sort, ce sont les femmes qui seront mises à l'honneur cette année, rappelle ce matin les Échos. Les coprésidents du forum seront pour la première fois toutes des coprésidentes. Parmi elles, deux Françaises, Christine Lagarde, la patronne du FMI, mais aussi Isabelle Cochère, la directrice générale d'Engie. Le forum qui se félicite par ailleurs de battre son record en accueillant cette année 21% de femmes. Là encore, il y a du boulot. C'est comme pour les prix scientifiques. Ce qui est sûr, en revanche, c'est qu'ils et qu'elles auront tous le sourire, puisque ce forum s'ouvre alors que la croissance mondiale renoue avec les sommets. Ça, c'est la une des Échos ce matin, qui rappelle que le FMI a encore une fois revu à la hausse ses pronostics. La croissance mondiale s'accélère. Elle devrait atteindre 3,9% cette année et l'année suivante. Une croissance boostée, disent les spécialistes, par la réforme fiscale de l'administration Trump. Elle explique à elle seule, écrit Richard Yeo, la moitié de la croissance supplémentaire des États-Unis et de ses principaux partenaires commerciaux. Ça va bien aussi, figurez-vous, pour les audiences de la Ligue 1, ça c'est du foot. Et c'est ce qu'on découvre ce matin dans le Figaro Écho. Jamais le foot n'a été autant regardé, plus 40% depuis le début de la saison. Alors comment l'expliquer? Et bien sûr le PSG et ses stars, Neymar, Mbappé. Mais cela n'explique pas tout. D'après le président de NPA Conseil, Philippe Bailly, le fait que le championnat soit très disputé aide également. S'il n'y a pas de suspense sur le fait que le PSG soit numéro 1, dit-il, les grands clubs, en revanche, tiennent leur rang et luttent pour accrocher des places significatives. Ces clubs-là, d'ailleurs, ont marqué plus de buts cette année que les saisons précédentes. Les bons scores des matchs à la télé se retrouvent également dans les stades, puisque la fréquentation y est en augmentation de 8% sur un an. Et puis La Croix, de son côté, publie ce matin son baromètre annuel de la confiance des Français dans les médias, et un cocorico, puisque c'est la radio qui est jugée la plus crédible, à 56%, plus 4% sur un an. Ça fait du bien, hein.
Oui, bien sûr.
Il n'y a pas de mal à se faire du bien.
Ce rire un petit peu assuré, qui est le mien.
Devant la presse écrite donc et la télévision, la médiatisation des récentes fake news, en revanche, a visiblement sérieusement entaché la réputation d'Internet. Seuls 25% des personnes interrogées jugent qu'il s'agit d'un média fiable, crédible, crédibles. Ils étaient quand même 39% en 2015, sacrée chute donc. Quant au sujet traité, 67% des personnes interrogées estiment qu'on a trop parlé de l'arrivée de Neymar au PSG.
C'était la revue de presse et elle était signée Amandine Bégaud comme chaque jour.